Bienvenue Jean-Pierre et merci d'être là et d'apporter la parole ce matin. Alors, Jean-Pierre s'est présenté à nous avec sa famille au printemps. Pour ceux qui étaient là cette fois-là, il y avait des diapos parce que ta famille est dans l'est du Congo. Et Jean-Pierre est un pasteur et un théologien. Et il est ici pour le programme de troisième cycle à l'Université Laval et à l'ETHEC pour se préparer pour enseigner la théologie dans une faculté importante de théologie la ville, c'est
Bounia.
Bounia, la faculté à Bounia, oui. Et donc, il est ici. C'est vraiment un privilège qu'il a accepté où le Seigneur l'a dirigé à l'Oasis pendant ses années d'études. Il a une famille et une église là-bas à Bounia également, mais j'aimerais dire que son travail de recherche, c'est sur la revitalisation d'une grande église assez ancienne au Congo. Et ça, c'est, je pense, le Seigneur Jésus a beaucoup à cœur la revitalisation des églises anciennes. Il paraît que dans l'Alliance au Québec, l'Oasis, c'est une église ancienne. On est une des vieilles églises. C'est ce que quelqu'un m'a dit une fois. Je suis un peu surpris parce qu'on a été fondé en 1980. Mais au Congo, les églises ont peut-être 100 ans, 125 ans. Alors, Jésus n'est pas seulement intéressé à amener des nouveaux missionnaires pour créer des nouvelles églises. Il veut revitaliser ces églises qui sont là depuis longtemps. Donc, toi, tu fais de la recherche là-dessus, sur comment approcher ça au Congo. Oui. Mais ce n'est pas de ça qu'il va parler aujourd'hui. Il va parler de l'Exode et de la suite du dialogue entre Moïse et Dieu et quelque chose qui va être bien pratique pour nous. Alors, bienvenue, merci beaucoup d'être là ce matin.
Merci. Oui.
Bonjour à tout le monde. J'aime souvent tenir le micro à main. Ça, c'est mon habitude. Merci beaucoup. Le pasteur Marc m'a déjà présenté. Nous sommes sur le livre d'Exode. Mais avant d'entrer à profondeur, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, nous te rendons grâce pour ta bonté, ton amour. Merci pour nous avoir accordé encore une fois de plus cette occasion de parler de ta part pour ton peuple. Purifie-nous, sanctifie-nous parce que nous sommes humains, nous sommes pécheurs, mais ta parole est sainte. Oui, cette semaine a été marquée par ces élections aux États-Unis, comme ton serviteur l'a souligné. Les sentiments sont partagés. Il y a de ceux-là qui se réjouissent et il y a de ceux-là qui, peut-être, ne sont pas contents. Nous, comme Église, Seigneur, tu nous demandes de prier pour les autorités, de prier pour les rois, de prier pour les chefs, parce que le bien du peuple a dépend. Que tu puisses être avec trappe pour ce énième que quelqu'un qui vient de lui être accordé et que tu puisses lui accorder de bons conseillers et que toi-même, Seigneur, tu puisses être son conseiller et que toute personne, d'une manière ou d'une autre, qui dépend de son gouvernement, puisse expérimenter la paix et la quiétude de Père. Nous passons à cette journée de souvenirs où des enfants, les militaires aux Amériques ont péri pour la cause de ces pays. Comme autrefois dans la Bible, tu as choisi de personnes qui ont milité pour leur pays. Et voilà pourquoi nous voulons penser particulièrement à ceux qui travaillent encore aujourd'hui là dans l'armée, que ce soit aux Amériques, que ce soit partout à travers le monde. qui se battent nuit et jour pour la cause de leur peuple, Seigneur. Souviens-toi d'eux à travers d'autres pays où les militaires souffrent, où il n'y a pas de soutien nécessaire, il n'y a pas de suivi nécessaire, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux-là qui se battent pour leur nation. Nous voulons t'écouter, parle-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, hein? Merci beaucoup. Oui, nous avons depuis un certain temps commencé l'étude de Exode 4 et le 29 septembre, le pasteur Marc nous a parlé, il a parlé, après avoir introduit, il nous a parlé de Exode 2, 11 jusqu'à 3, 4 et il a parlé de pousser ou appeler, c'était ça le thème de ces jours-là. Et après cela, ça n'est suivi le 3 novembre 2024. Dieu a appelé Moïse, il t'appelle aussi. Ça, c'était le deuxième thème que le pasteur Marc a développé. À un moment donné, on a laissé un peu Exode et pasteur Mélodie nous a envoyé, nous a amené vers Habacuc avec ses questionnements sur, n'est-ce pas, la fidélité de Dieu et sa bonté face à l'injustice. On a parcouru un peu Habacuc et nous sommes encore revenus sur Exode. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 3, chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4, versets 1 à 17. C'est le chapitre TP, là, nous avons pensé nous limiter au verset 17. Avons-nous besoin de signes pour obéir à la voix de Dieu? C'est ça notre thématique aujourd'hui. Demande à celui qui est à tes côtés, avons-nous besoin de signes pour obéir à la voix de Dieu? Merci. Nous n'avons pas besoin de réponse maintenant, on va y arriver. Nous devons d'abord lire le texte et nous allons finir par répondre. Peut-être que le texte est trop petit pour vous, je vais le lire ici. Exode 4, 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans son sein, dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons les objections de Moïse. Moïse engage des objections contre Dieu. Ils sont en train de s'échanger avec Dieu. Moïse donne des excuses. Ils échangent, ils discutent avec Dieu. Mais Moïse n'est pas la première personne à poser de tels caractères. Si nous lisons dans la Bible, nous voyons par exemple, il y a Jérémie qui avait dit qu'il ne savait pas parler parce qu'il était encore enfant. Lorsque Dieu lui a parlé, Dieu voudrait lui confier la mission et il a dit non, 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 moi je suis encore enfant. Moi je ne sais pas parler. Il a donné des objections, il a donné des excuses, il a donné des explications. Nous voyons quelqu'un d'autre, c'est Gédéon, qui avait dit qu'il était d'une famille plus pauvre de la tribu de Manassé. Dieu voudrait lui envoyer pour aller sauver Israël, son peuple. Il a donné des excuses, il a donné des objections. Mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi quelqu'un dont la Bible n'a pas donné le nom, à qui Jésus a dit « Suis-moi ». Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père ». Et dans la tradition juive, aller ensevelir son père signifie, ce n'est pas à dire que son père est déjà décédé. Cela signifie qu'il doit rester à côté de son père jusqu'à ce que son père va mourir. Et il va organiser les obsèques de son père. Et c'est à ce moment-là qu'il peut maintenant s'engager à quitter la maison de son père, qu'il peut maintenant s'engager à faire autre chose. Autrement dit, la réponse de ce monsieur signifiait qu'il devrait rester dans sa famille pour s'occuper de son père, de sa famille en général, peut-être jusqu'à la mort de son père. Il allait maintenant répondre à l'appel de Jésus. Et donc, d'une manière générale, les gens que Dieu appelle ont toujours tendance à s'excuser, ont toujours tendance à donner des objections pour dire que non, voyez, on dirait qu'on n'a pas du tout prêt à servir le Seigneur. On a toujours des choses à côté de nous qui nous empêchent de répondre directement à l'appel du Seigneur. Et c'était la même chose pour Gédéon, pour Moïse. Mais voyons concrètement, c'était quoi le problème avec Moïse? Est-ce que Moïse refuse la mission que Dieu lui confie? C'est ça la question que nous nous posons ici. Et nous pensons que oui, en tant qu'humain, Moïse a peur de la mission, ne sachant pas comment il va accomplir cette mission. D'abord, il doute si ses frères, si le peuple Israël va l'écouter. Dans le verset 1 partie, il dit, mais ils diront l'Éternel n'était point envoyé, n'était point apparu. Il dit à Dieu, oui, tu m'envoies, mais est-ce que tu es sûr que ce peuple va m'écouter? Il va dire que tu ne m'as pas apparu. Et vous savez que Moïse est devant Israël, c'est comme un diaspora en quelque sorte. Il n'a pas vécu totalement avec lui parce que lui a vécu en Égypte. Il a vécu dans le palais royal chez Pharaon. Et après quelques temps, il s'est exilé. Et c'est de là que le Seigneur va lui dire d'aller maintenant libérer son peuple. Il ne s'est pas du tout bien habitué avec ce peuple Israël. Et on l'envoie vers ce peuple. Le peuple qui s'est habitué avec Dieu. Le peuple à qui Dieu a parlé plusieurs fois. Mais il se pose la question, est-ce que ces gens vont me croire moi là? D'ailleurs, les autres l'appelaient Égyptien. Ils ne savaient pas que c'était leur frère. Amen, hein? Ils doutent. Ils se posent toutes ces questions. Ils se posent toutes ces questions. Et Moïse s'imagine le risque d'affronter Pharaon et ne sait pas ce qui lui arriverait. Il se sent petit devant Israël. Il se sent petit aussi devant Pharaon. Je serai avec toi. Telle est la promesse de Dieu à Moïse. C'est encourageant, n'est-ce pas? Oui. Dieu accorde des signes pour Moïse parce que tu as dit que ces gens ne vont pas croire à toi. Je dois trouver une solution. Dieu commence par donner un signe extérieur. Et ce signe extérieur, c'est une verge qui devient un serpent. Et là, nous avons vu dans le verset 2 à 5. S'il faut encore relire, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint serpent. Moïse est fouillé devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ici, j'appelle un signe extérieur parce que ce n'est pas directement sur le corps de Moïse. Un signe extérieur, c'est la verge qu'il tient. Et ici, ce qui m'intéresse ici, c'est que lorsque Moïse jette la verge par terre, la verge devient serpent. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il fuit. Moïse ici, il est dans la pratique, il est dans la formation des signes avec Dieu. Il fuit devant sa propre verge qui est devenue serpent. Et je me suis dit, si jamais cet exercice n'a pas eu lieu avant, et qu'il était parti avec sa verge, et qu'il a essayé, séance étonnante, devant le peuple et devant Pharaon. Le peuple allait fuir, et Moïse, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il allait aussi fuir, et ça serait du scandale. Donc c'est intéressant qu'il a eu le temps quand même de s'entraîner, n'est-ce pas? Il a eu le temps de s'entraîner. La verge devient serpent. Moïse fuit, et Dieu lui dit, non, ne fuis pas. Saisis-le par la queue. Et il a fait cet exercice, et directement, la verge est redevenue, et le serpent est redevenu encore une verge. Très intéressant. Mais c'est un signe extérieur. Les Israéliens pouvaient dire, mais ça ce n'est qu'un bâton magique de l'Égypte, ça ne peut que devenir un serpent. Alors c'est comme ça que Dieu envisage un deuxième signe, cette fois-ci un signe intérieur. Le signe intérieur, ça c'est maintenant avec la main de Moïse. Dieu lui dit, mets ta main sur ton sein. Il met sa main ici. Et il dit, enlève ta main. Quand il enlève sa main, la Bible dit que la main est devenue couverte de quoi? De lèpre, très blanche comme la neige. Ici au Canada, on saura ce que signifie. Mais si j'ai prêché ça chez nous, on me demanderait, la neige est blanche comment? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu la neige. Ici, on comprendrait. On comprend très bien. Ça, ce n'est pas ma main. Ça, c'est la main de Moïse. Et lorsqu'il remet encore sa main sur l'ordre de Dieu, la Bible dit que la main devient comme sa chair. Et donc, c'est pour dire que Dieu est merveilleux. Il connaît son peuple. Il connaît que Israël n'est pas aussi facile. Il peut ou ne pas accepter les premiers signes. Voici les deuxièmes signes. Et Dieu prévoit également le troisième signe. En cas de récidivité, aux deux premiers signes, de l'eau du fleuve répandit sur terre qui deviendra du sang. Si jamais il ne te croit toujours pas dans ces deux premiers signes, tu vas juste prendre un peu de l'eau du fleuve, tu vas verser par terre et l'eau deviendra du sang. Malheureusement, quelles que soient toutes ces explications, toutes ces démarches de Dieu, Moïse n'est toujours pas convaincu. Il continue à discuter jusqu'à ce que Dieu est fâché. Vous savez, quand on discute trop, ça change souvent aussi l'émotion de celui avec qui vous discutez. Mais Dieu dit, mais comment toi-même tu ne comprends pas? Est-ce que le peuple va comprendre? Tu continues à discuter, quelles que soient toutes les démarches, quelles que soient tout ce que je t'ai proposé comme solution, quels que soient les signes que j'ai mis à ta disposition pour que le peuple puisse te croire. Mais toi-même, tu n'es toujours pas satisfait. Tu continues à discuter. Tu continues à faire des objections. Dieu est fâché contre Moïse. Et ça, c'est ce que nous trouvons dans Exode 4, 10 à 17. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc. Je serai avec ta bouche et je t'assignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
Wow.
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ta main. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Ça, c'est la discussion qui continue entre Dieu et Moïse. Dieu est fâché contre Moïse. Les objections et les excuses de Moïse n'ont pas empêché Dieu à utiliser Moïse pour aller libérer son peuple. Ça, c'est un défi pour Moïse. Quelles que soient toutes ces explications. Avant, là, il a dit qu'on ne va pas l'écouter. On a donné des signes. Maintenant, il dit qu'il ne sait pas parler. On lui donne un interprète. Ça, c'est Dieu, il est merveilleux. Lorsqu'il veut t'utiliser, quel que soit tout ce que tu peux prendre comme échappatoire, s'il t'a déjà choisi, ce n'est rien. Il finira par t'utiliser. Et c'était la même chose avec Moïse. Amen, hein? C'était la même chose avec Moïse. Mais pourquoi Dieu est fâché? Dieu est fâché parce que Moïse tarde à se mettre en action pour accomplir la mission qui lui est confiée par Dieu, en revenant sur ses objections et a déclaré finalement qu'il n'était pas prêt pour la mission. Il a clairement dit à Dieu, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Waouh, Moïse, tout l'état qu'on a pris avec toi, toutes les démarches, c'est maintenant que tu dois me dire que je dois envoyer quelqu'un, tu n'es pas prêt à partir. Moïse tarde à monter un plan d'action pour commencer la mission. Il s'attend à ce que Dieu fasse tout. Déjà fâché, Dieu nomme un interprète pour Moïse, Aaron son frère. Ça, c'est le verset 14 à 16. Alors la colère de l'Éternel s'afflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu est fâché. Hein? Une colère divine, ce n'est pas une colère charnelle. Amen. Hein? Dieu est fâché. Il nomme un interprète pour Moïse. C'est Dieu qui fait tout pour Moïse. Alors que le mandat était déjà lui accordé, il devrait s'asseoir, il devrait monter un plan d'action pour dire, bon, comme je ne sais pas parler, je dois chercher quelqu'un qui va m'aider. Vous savez, quand vous avez une responsabilité, le reste, c'est vous. C'est vous qui devez occuper votre bureau, équiper votre bureau. C'est vous qui allez recruter les gens pour vous accompagner à la mission qui vous est confiée. Dieu ne peut pas faire tout pour vous. Surtout, si vous avez la volonté de le faire. Mais le cas de Moïse ici, c'était l'opposition. Il voulait toujours s'opposer. Alors que le choix de Dieu était déjà sur lui. Comme nous l'avons vu quelque part, que quelles que soient ses objections, ses excuses, cela n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Maintenant ici, je ne sais pas quelle sera autre raison que Moïse va donner. Parce qu'il a dit qu'on ne va pas le croire, les signes sont là. Il a dit qu'il ne sait pas parler, l'interprète est là. Amen, hein? Amen. Dieu met toujours des gens sur notre chemin pour nous faciliter à répondre à son appel et à accomplir sa mission. Ce sont des collaborateurs qui peuvent suppléer à nos faiblesses, à nos insuffisances, pour que la mission de Dieu soit accomplie. Il y a toujours des gens que Dieu met à nos côtés. Pour nous qui sommes mariés, ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux, ça peut être ton enfant, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de service, ça peut être un frère et une sœur en Christ. Ils sont là pour suppléer à nos manquements, là où nous sommes dépassés, là où nous sommes incompétents, ils peuvent nous aider. Il y a un frère qui me dit dans mon église que moi j'aime chanter, mais je ne sais pas chanter. Donc il aime chanter, il dit qu'il aime chanter, il n'aime pas chanter à la chorale qu'on appelle la chorale vocale, parce qu'à la chorale vocale, on doit attendre toutes vos voix. Il aime chanter dans une chorale là où il y a de la musique. Parce que même s'il ne chante pas bien, il chante quand même. Parce qu'il aime chanter, mais il ne sait pas chanter. Donc, nous avons tous des limites quelque part. Nous avons besoin des gens à nos côtés, les frères et sœurs, pour nous accompagner, pour nous suppléer. Nous devons collaborer avec tout cela. Parce que tout le monde est important, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Maintenant, pour terminer, nous devons répondre à cette question. Avons-nous besoin de signes pour obéir à la voix de Dieu? Nous avons suivi comment Moïse a présenté des objections. Moïse n'a pas demandé des signes à Dieu, comme cela est le cas de Gédéon. Si vous lisez l'histoire de Gédéon, ça se juge. Lui a dit à Dieu, « Si c'est toi qui m'as envoyé, je vais mettre la peau ici, la peau de la chèvre, ici dehors, et faire en sorte qu'il pleuve, rien que si la peau, et qu'ailleurs qu'il n'y ait pas de rosée. » Et Dieu a fait ça. Les jours suivants, il va encore dire à Dieu, « Bon, cette fois-ci, je voudrais que, si c'est réellement toi qui m'envoies, est-ce que je voudrais qu'il y ait des rosées partout, et que si la peau de la chèvre, qu'il n'y ait rien. » Et Dieu a fait ça. Pour le cas de Gédéon, lui-même a demandé des signes à Dieu. Même Moïse n'a pas demandé des signes. Il n'en avait d'ailleurs même pas besoin parce qu'il avait dit qu'il n'était même pas prêt pour cette mission. Mais Dieu, de toutes les façons, a donné des signes. Avons-nous besoin des signes pour obéir à la voix de Dieu? Quelqu'un a fait la tête comme ça? La réponse, c'est oui et non. La réponse, c'est oui et non. Voyons la réponse, oui. Oui, si cela est la volonté de Dieu. Si Dieu nous montre un signe, veut nous montrer un signe, quelconque pour attester que c'est bien lui qui nous parle. Oui, dans ce cas-là, nous disons merci, nous avons besoin de ce signe. Si c'est sa volonté, s'il veut vraiment nous montrer un signe pour attester que c'est lui qui nous parle. Même à ce jour, il y a des gens qui prient. Ils disent, Seigneur, si c'est réellement ta volonté, montre-moi tel signe. Il y a des gens qui témoignent que Dieu m'a réellement montré le signe que je lui ai demandé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Si c'est sa volonté, nous pouvons voir ces signes. N'importe lequel. Ça dépend de sa volonté, ça dépend de ce que Dieu va juger. Non, en revanche, si cela n'est pas la volonté de Dieu. On ne peut pas forcer les signes. Si Dieu n'aime pas accorder ces signes, il ne faut pas forcer. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé? Réellement? On ne sait pas. Il y a des gens qui forcent les signes. Mais si Dieu n'accorde pas les signes, inutile d'insister là-dessus. Autre oui, c'est que les signes, il y en a encore, même dans la Nouvelle Alliance. Jésus a prié le Père pour que le Saint-Esprit soit déversé sur tous les croyants. Et donc, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit et nous devenons tous sacrificateurs. Et nous pouvons nous adresser directement à Dieu. Contrairement à l'ancienne alliance, où seuls les sacrificateurs pouvaient accéder au lieu très saint dans le temple. Et si tu avais des péchés, tu devrais amener des boucs, des agneaux au sacrificateur, et il devrait les sacrifier pour le pardon de ton péché. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous devenus sacrificateurs et nous pouvons tous accéder à Dieu, pouvons lui parler de nos problèmes. Nous pouvons nous-mêmes communiquer avec notre Dieu. Donc, ça, c'est ce que nous appelons aussi les sacerdoces universels. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Selon Apocalypse 1:6, nous constituons un sacerdoce royal, serons 1 Pierre 2:9. À ce titre, nous pouvons parler directement à Dieu et Dieu peut aussi nous parler de n'importe quelle manière. Ça peut être par une voix audible, bien que c'est souvent rare. Ça peut être par voix intérieure. Ça peut être par un signe s'il est levé. Et ça peut être à travers la Bible, sa parole. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, Dieu peut nous communiquer certaines choses. Ou ça peut être à travers quelqu'un qu'il veut utiliser pour nous parler de sa part. Comme nous avons parlé de collaborateurs, un frère et soeur, un frère ou un soeur ou une soeur peut venir te dire, mon cher, voici ce que je pressens à toi. L'Esprit de Dieu me dit que tu dois avoir une mission accomplie pour le Seigneur. Le pasteur Marc avait dit ce jour-là qu'il y a un frère chrétien qui lui avait dit que je pense que c'est maintenant que tu dois donner ta vie en Jésus. Dieu utilise des gens, le frère en Christ, le sœur en Christ, pour nous parler de sa part. Il peut se servir de n'importe quel signe, comme j'ai dit que les signes, il y en a encore, même dans la Nouvelle Alliance. Si on donnait le temps aux gens de s'exprimer ici, certaines personnes allaient témoigner de telle manière ou telle autre, comment Dieu les a montré des signes. Mais dans ce sacerdoce universel, Jésus élève certaines personnes pour travailler dans l'édification et le perfectionnement du corps du Christ. C'est conféré Éphésiens 4, 11 à 12, qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. » Et donc, c'est là, hein, ce sont des personnes que Dieu a appelées d'une manière particulière pour nous communiquer ces desseins au travers les enseignements et les prédications de la parole, de sa parole. Amen. Donc, le prédicateur de la parole, Dieu les utilise pour nous parler de la part de Dieu, pour nous communiquer les desseins de Dieu, pour nous communiquer la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison aussi que la Bible dit quelque part, je pense, c'est 1 Timothée 5, 17, que ces gens-là méritent la double honneur, méritent le double honneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont les porte-paroles de l'éternel Dieu. Ils continuent à nous enseigner, ils travaillent pour l'édification du Christ, corps du Christ, l'édification de l'Église, corps du Christ. Donc, ce sont ceux-là qui sont appelés aussi d'une manière particulière. Mais au finish, les signes permanents que nous avons sont la Bible, parole de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu. Si vous méditez la Bible, la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur peut te parler. Et tu peux découvrir de grandes choses. Et l'Esprit de Dieu peut aussi nous communiquer à certains égards la volonté de Dieu, les voix de Dieu. Amen, hein? Les signes permanents que nous avons, la Bible, la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons parlé de Exode 4, là où nous avons vu que si Dieu appelle, quelle que soit nos faiblesses, lui-même va s'en occuper. Quelles que soient nos objections, quel que soit ce que nous pouvons avancer comme réseau pour ne pas répondre à l'appel, s'il nous a déjà appelés, il finira par nous utiliser. Jonas a pris autre direction. Jusqu'à aller faire un séjour dans le ventre du poisson. Mais à la fin des comptes, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé. Amen, hein?
Amen.
Que Dieu bénisse sa parole.
Amen.
Alors, nous allons prier. Nous allons prier, chacun va prier pour lui. Nous allons garder quelques minutes de silence. Tu vas prier pour que le Seigneur te montre la mission particulière pour laquelle il t'appelle au sein de l'Église, au sein de la famille ou au sein de la société. Tu dois prier pour que l'Esprit de Dieu te montre clairement quelles sont tes faiblesses, tes limites, tes insuffisances pour accomplir la mission que Dieu te confie. Tu vas aussi prier pour que Dieu mette des bons collaborateurs sur ton chemin qui t'aideront à bien accomplir la mission que Dieu te confie. Je vous laisse quelques secondes de silence. Prions chacun pour soi et à la fin des comptes, je vais demander au pasteur Marc de venir prier pour tout le monde, pour nous tous et pour cette parole. Prions.
Merci au Dieu pour Jean-Pierre, tu l'as utilisé, pour sa mission de ce matin, de nous parler sur notre mission. Merci parce que Saint-Esprit, tu es venu. Et oui, Père, à travers Jésus, tu as envoyé l'Esprit pour parler à chaque personne. Et une pensée qui m'était venue en priant, c'est les collaborateurs aussi, les collaboratrices, c'est nous. Donc peut-être tu nous dis, Marc, aide telle personne qui a un projet. Viens aux côtés de telle personne qui est en train d'organiser quelque chose ou qui a une vision nouvelle. Donc rends-nous sensibles à notre mission puis à celle des autres où on peut vraiment faire la différence. Donne-nous cette foi pour apprécier les signes que tu nous envoies, parce que tu es un Dieu bon. Tu, comme avec Moïse, tu lui as donné des cadeaux, ces signes-là, dont il n'avait pas besoin, parfois, tout de suite, mais ça a été utile plus tard. C'est toujours dans ta générosité. Mais donne-nous aussi la foi de nous en passer quand ta parole est là, quand on sait déjà ce que tu nous demandes. Ô Père, merci pour ce message riche et donne-nous d'avoir des cœurs obéissants. Attendris nos cœurs pour être prêts à te dire oui. Nous te remercions au nom de Christ. Amen.